Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Postscriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
Lettre sonore numéro 1. Cher donneur.
L'hôpital nous appelle pour nous dire ça y est, c'est fini. On nous a expliqué ce qui se passait exactement, que donc le cerveau avait été comme une voiture, quoi, genre le moteur ne fonctionne plus, mais par contre toutes les pièces sont bonnes à prendre en gros, quoi.
Il y a un médecin qui est rentré à 11h18 dans ma chambre, 23h18. J'étais en train de regarder Friends avec ma sœur. J'étais vraiment bien ce soir-là. Et à ce moment-là, il m'a dit, arrêtez de manger parce que c'est ce soir, on a un cœur pour vous.
Bonjour, nous sommes Alice
et Charlie.
Et vous écoutez la toute première lettre sonore de notre podcast Postscriptum. Un podcast qui propose de renouer le dialogue quand il est difficile, voire impossible dans la vraie vie.
Dans cet épisode, cher donneur, vous allez découvrir l'histoire de Lorraine, 33 ans, qui a été deux fois greffée du cœur. Et le parcours de Blanche, 31 ans, qui a donné son accord pour que les organes de son père, décédé d'un AVC, soient greffés. Lorraine s'adresse à ses donneurs et Blanche s'adresse, elle, à la personne qui a reçu le cœur de son père. Alors bien entendu, Lorraine n'a pas reçu le cœur du père de Blanche, le don d'organes est anonyme, il est impossible de connaître l'identité de celui qui nous a fait don de son foie, de son poumon ou de son cœur.
Une règle de bioéthique évidente pour éviter par exemple que les familles de donneurs ne soient tentées de rentrer en contact avec les receveurs qui pourraient se sentir dans l'obligation morale de tisser un lien avec elles. Ce principe est donc nécessaire, mais l'envie de dialogue entre donneur et proche de receveur reste néanmoins réelle.
Alors, je m'appelle Blanche, j'ai 31 ans, je suis musicienne, contrebassiste, et il y a presque deux ans maintenant, mon père a été victime d'un AVC. Voilà, on a dû très rapidement prendre des décisions quant à la question du don d'organes et on a accepté très rapidement.
Cher donneur, je voudrais te dire tellement de choses. Mais d'abord, que tu es toujours avec moi. Que je t'ai donné un prénom que j'aime. Et que je t'ai matérialisé par une petite poupée que j'emporte partout avec moi. Je suis Lorraine, j'ai 33 ans et j'ai été greffée deux fois du cœur et une fois du rein. Mon histoire a commencé un 18 juillet et je passais un entretien dans une banque française. J'étais pas bien pendant l'entretien, j'avais vraiment la nausée, je tremblais un peu, mais je me suis dit, j'ai dû boire ou manger quelque chose de pas bon. Donc bref, je sors de cet entretien et puis je vais boire un coca avec une amie et là je me suis mise à trembler et ma fièvre est montée d'un coup très très fort. Donc j'ai fait une espèce de crise de tétanie où je me suis mise à pleurer. Finalement, au bout de 3 jours à 41, on a fini par aller à l'hôpital quand même, le 3e jour. Le premier diagnostic qui a été posé, c'était le diagnostic d'une méningite virale. Mais pour autant, donc, les jours passent et les semaines passent même. Et mon état s'améliore pas et se dégrade. Donc, ils me gardent en observation pendant toute cette période. Et les médecins commencent à se dire que le diagnostic est peut-être pas le bon. Et ils commencent à s'orienter vers le diagnostic d'une endocardite. Donc, une infection du cœur, en fait. Et pour confirmer ce diagnostic d'endocardite, on m'envoie à la Riboisière faire une ETO. C'est une échographie transœsophagienne. C'est une caméra qui descend, en fait, pour aller voir le cœur de plus près. Je me souviendrai toujours de ce jour-là parce que le visage du médecin se décomposait au fur et à mesure qu'il me faisait l'examen, puisque du coup il est tombé directement sur la valve et il a vu que du coup c'était quasiment détaché du ventricule. Donc en fait il y a une bactérie qui est venue se mettre dans mon ventricule gauche là sur ma valve mitrale et qui l'a grignoté. On me dit vous ne bougez plus, vous êtes en train de clamser quoi. Il fallait m'opérer pour changer la valve. Je sais que j'étais angoissée mais je sais pas si à ce moment-là précisément je me suis dit tu vas mourir quoi. Donc je pars au bloc, je me souviens de rien, hein, juste d'être partie au bloc opératoire. Et puis en fait, de ce que j'ai compris, l'opération s'est mal passée. J'ai déclenché une maladie du sang hyper rare. Tout s'est arrêté, mon cœur, mes reins, mon foie, mes poumons, tout a pété quoi. Et puis ils m'ont branché ce qu'on appelle une ECMO. C'est une énorme machine qui fait le travail du cœur puisque le mien a stoppé. Donc les poumons et le foie sont repartis, sauf que mes reins et mon cœur non. Donc là évidemment j'étais dans un coma artificiel, hein, vous imaginez bien, provoqué quoi. Il n'y avait plus d'autre solution que de penser à une greffe cardiaque.
J'étais en week-end dans le Loiret et je reçois un coup de fil d'un ami de mon père qui m'explique que mon père a fait vraisemblablement un AVC, qui s'était écroulé par terre et que les pompiers ont essayé de le réanimer pendant un certain temps et finalement ils n'ont pas réussi donc ils l'ont emmené à l'hôpital. J'étais complètement décontenancée, je savais pas s'il fallait que je rentre à tout prix ou si en fait c'était un truc juste pour m'avertir, enfin je savais pas trop ce qui se passait et j'ai compris quand je lui ai dit est-ce que tu crois qu'il faut que je rentre et j'ai compris à son oui qu'il fallait que je rentre immédiatement. Donc je suis rentrée, j'ai d'abord averti toute ma famille parce que j'avais été la première avertie parce qu'il avait trouvé rapidement mon numéro, je crois, dans le portable de mon père. Enfin, il y avait eu un truc comme ça. Et en fait, notre famille, elle est très très dispatchée. Ma sœur est en Bretagne, mon frère est dans le sud de la France. La sœur de mon père était aussi dans le sud. Enfin bref, donc tout le monde était un peu partout. Donc j'ai averti tout le monde. Moi, j'avais quelques heures de route. Donc la personne la plus proche, géographiquement, c'était ma mère. Ils n'étaient plus ensemble depuis des années, divorcés, etc. Mais ils avaient gardé un lien, un bon lien, quoi. Et du coup, j'avertis tout de suite ma mère qui était à l'hôpital très, très rapidement. Et dans la voiture, ma cousine rappelle l'hôpital pour savoir où est-ce que ça en est, est-ce que ça va. Enfin, parce que j'étais avec des cousins. Et ils ne voulaient rien dire au téléphone, rien du tout. Ils nous disaient juste, venez, c'est assez important, c'est assez urgent, etc. Et du coup, ils nous ont rien dit jusqu'à ce qu'on arrive tous à l'hôpital. Enfin, on a appris plus tard qu'ils avaient peur qu'on n'arrive pas à prendre la route. Donc, ils ne voulaient pas risquer d'accident, je crois, supplémentaire. Et une fois que tout le monde est arrivé, enfin, ils nous ont expliqué ce que c'était que l'AVC, quoi. Donc, que le cerveau était mort, en quelque sorte, mais que son corps était vivant. Alors, c'était très, très, très bizarre à comprendre. Comme ça m'est sorti, j'aurais dit, mais en gros, vous me dites que mon père est en train de mourir, quoi. Donc on a pu aller le voir à ce moment-là. Il était branché partout, je pense, pour que le corps continue à vivre, en fait. Je ne crois pas qu'il nous ait dit tout de suite « Est-ce que vous voulez donner ces organes ?» Je crois qu'ils nous ont laissé un petit temps de comprendre ce qui se passait, de savoir que vraiment c'était fini, etc. C'est une nuit où on a d'ailleurs très très peu dormi. Enfin, je me souviens, on s'est tous retrouvés. C'était assez joyeux comme moment. Ça fait bizarre d'en parler quand même 2 ans après, quoi. Mais du coup, on a passé cette nuit comme ça, tous ensemble, à écouter de la musique et tout. Enfin, c'était... Et on a passé la nuit, bon, en gros, à picoler, à fumer des clopes et à écouter de la musique. Et, enfin, c'était une super soirée, quoi, en fait. Enfin, une super nuit. Enfin, même pas à parler spécialement de la mort, mais à parler plutôt de la vie, en fait, et de tous les souvenirs, écouter des musiques de l'époque, des musiques que mon père aimait, enfin, des trucs comme ça. C'était vraiment très sympa. Et puis bon, le lendemain matin, du coup, là, on nous a convoqués vraiment d'une manière plus officielle, quoi. Tout le monde était là. Et là, on nous a tout de suite parlé de ça. Bon, voilà, donc là, c'est fini. Ça, je pense que c'est un truc important à dire, c'est qu'on a été hyper bien informés de tout ce qui s'est passé, toutes les étapes. Si on décidait de donner le cœur, par exemple, tout allait être même remplacé par une forme qui est exactement la même et qui... L'aspect physique, en tout cas, il restait exactement le même. Et donc, demander de prendre une décision très vite, pour le coup, parce qu'il faut se dépêcher dans ces cas-là. Je pense qu'on a dû se regarder 2 minutes, même pas 2 secondes, et se dire bah oui, enfin genre, mais c'était vraiment évident quoi. Donc Bon, en plus, moi, je suis du genre à penser que ouais, quand on est mort, on est mort, donc autant que ça serve, quoi. Et puis ça correspondait bien aussi à l'état d'esprit de notre père, qui aimait vraiment la vie, qui aimait les gens, qui rigolait beaucoup. Enfin, c'était évident qu'il avait envie de ça. Et d'ailleurs, ma sœur en avait parlé un mois plus tôt avant, avec lui, de l'incinération, des dons, des trucs, enfin, de la mort, quoi, en gros. Mais pas du tout, enfin, évidemment, on pouvait pas se douter, il était pas du tout malade ou quoi que ce soit, donc... Mais ils en avaient parlé comme ça, vraiment par hasard, quoi. Ben, je crois que mon père avait dû lui dire « Bah oui, non, mais moi, vous prenez tout, il n'y a pas de problème. » En fait, il avait parlé de tout. Ils avaient parlé de tout un mois avant. C'était assez fou.
Cher donneur, quand je me suis réveillée avec ton cœur, j'ai d'abord égoïstement pensé à celui qui m'avait été enlevé de la poitrine. Celui de mon enfance et de ma vie de jeune fille, et à tout ce qu'il avait vécu avec moi. Les médecins diront qu'un cœur est un muscle et qu'il ne contient pas les souvenirs de ma vie passée, et ils ont raison. Mais pourtant, inexorablement, ça m'a fait imaginer ta vie. J'imagine ton enfance, tes parents, j'imagine des frères et des sœurs, des chamailleries et des rires, j'imagine ton premier amour, tes déceptions, et tous les projets que tu avais rêvés. Alors je t'imagine aussi un peu comme ça. Là où tu es aujourd'hui. Un jour où mes indicateurs étaient plutôt bons, ils décident de tenter le coup et de me mettre donc en super urgence. Donc en super urgence, c'est lorsque la personne est vraiment qu'elle est en train de mourir, et dans ce cas-là, on la met sur une liste prioritaire sur toute la France. Et il y a un cœur qui est arrivé pour moi dans les premières 24 heures de cette super urgence. Voilà, le cœur est arrivé fin septembre et j'ai eu donc une première greffe cardiaque à ce moment-là. Donc les médecins avaient dit à maman que j'avais 0,1% de chance de sortir du bloc. Et finalement, je suis sortie du bloc, ce premier cœur greffé a marché. Moi, je me suis réveillée après 2 mois de coma, avec un nouveau cœur, plus de reins, des poils partout sur le visage à cause d'un des anti-rejets qui donne des poils. Quasiment plus de cheveux et surtout paralysée. Donc en me réveillant, j'avais compris que j'étais greffée du cœur, sans savoir véritablement ce que ça signifiait au départ. Je pense que j'étais sidérée. Tout ça accompagné de façon absolument extraordinaire par ma famille et mes amis. Ce qui m'a portée à ce moment-là, c'est qu'eux, ils avaient l'air tellement heureux que je sois réveillée, que j'osais pas leur dire « mais attendez les gars, c'est l'enfer quoi ». Puis la maison de rééducation. 6 mois plus tard, j'ai vraiment réappris à marcher comme un bébé, quoi. J'ai commencé vraiment à prendre conscience de ce qui m'arrivait. Et puis, je me suis vue pour la première fois dans une glace nue, où j'ai découvert un corps complètement criblé de cicatrices partout. Je crois que c'était le pire moment pour moi. Ça peut paraître secondaire quand on survit à une greffe de cœur et qu'on n'a plus de rein, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce que de pouvoir se reconnaître dans le miroir, et ben, ça fait partie de la reconstruction de son identité, en fait.
Cher greffé, j'espère que tu vas bien, que ton cœur bat super bien, qu'il va être prêt à recevoir plein d'amour et qu'il va en donner beaucoup. On se connaîtra jamais, on se verra jamais. J'aurais vraiment rêvé boire une bière avec toi. Toute la famille se joint à moi pour te dire qu'on est hyper content que ce cœur soit dans toi, quoi. Bah, on espère que tu vas vivre super longtemps et que surtout que tu vas profiter à fond de tous les moments que tu vas vivre et comme mon père l'a fait pendant toute sa vie.
À partir du moment où ils savaient qu'on était d'accord pour donner et pour tout donner, parce qu'on peut aussi choisir de donner juste le cœur ou juste des parties qui nous semblent moins douloureuses pour nous. Enfin, donc nous, on avait dit « prenez ce que vous voulez » et ils ont cherché ce qui était « bon à prendre », entre guillemets. Et ils nous appelaient à chaque fois pour nous dire « ça, c'est bon, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le prenne ?» Enfin, et c'est pour ça que je dis qu'on avait presque l'impression de faire l'opération avec eux, tellement ils étaient hyper transparents quoi sur ce qui se passait. Et donc on n'avait pas l'impression d'être dépossédés complètement de notre père, en fait. Donc je sais qu'ils ont pris le cœur, le pancréas, les reins, il y a eu 5 greffés, ça c'est sûr, et la peau, ils ont pris de la peau.
L'identité des donneurs et des greffés n'est connue que de l'Agence de la biomédecine. Ces informations sont confidentielles. Lorraine ne saura donc jamais de qui provient son nouveau cœur, et Blanche ne connaîtra jamais le nom des personnes qui ont reçu les organes de son père.
Chère famille de donneurs, j'ai cherché un mot dans la langue française pour vous dire ce que je ressentais, mais il n'y en a pas d'assez fort. Je ne peux utiliser que le mot « merci », mais je voudrais que vous entendiez ce « merci » chargé de tout ce qu'il porte. C'est un merci rempli de toute ma joie d'être vivante, de mon entière reconnaissance pour le don extraordinaire que vous m'avez offert. Chère famille de donneurs, je veux vous dire que votre enfant, votre parent, votre être aimé ne me quitte pas. Que chaque jour, j'essaye d'être digne du don que j'ai reçu de vous. Les choses ont commencé à se recompliquer, donc toujours dans la même année, hein, entre août 2011 et puis décembre 2012. J'étais en fait essoufflée de nouveau. J'avais l'impression qu'une fois que je m'étais habillée le matin, j'avais fait mon sport de la journée, quoi. Bon, en fait, je pensais juste que j'allais vivre difficilement quelques années et puis partir doucement. Et donc, je vais en consultation voir mon cardiologue. Je pouvais pas imaginer ce qu'il allait me dire ce jour-là. Et en fait, ce jour-là, il m'a dit « Bon, écoute, Lorraine, voilà, comme tu l'as compris, ton cœur marche pas, donc tu vas devoir avoir une autre greffe. » Alors là, mais j'ai complètement débarqué. En fait, je n'imaginais pas qu'il était possible d'être greffé une deuxième fois du cœur en si peu de temps, en fait. Et surtout, vu comment s'était passée la première greffe, pour moi, c'était très, très effrayant. En même temps, pas tellement d'autres solutions. Et ce jour-là, tout le monde était mal à la maison. Tout le monde chialait, quoi. Parce qu'en plus, éthiquement, je me posais quand même des questions. Je me disais, mais combien de personnes meurent pour que moi je vive ? Donc les personnes, évidemment, ne meurent pas pour que moi je vive, mais... On se dit, jusqu'à quand est-ce qu'on change des organes, on change des pièces comme ça, comme si on changeait les pièces d'une voiture, quoi. Et donc, me voilà repartie en réanimation, sous de butamine, et puis on me dit, bon, bah en fait, c'est maintenant, tu repars pas pour l'instant, la greffe, ça va arriver. Et donc, voilà, et donc j'ai attendu quelques semaines, et puis un soir, il y a un médecin qui est rentré à 11h18, et à ce moment-là, il m'a dit, bon, bah arrêtez de manger, parce que c'est ce soir, on a un cœur pour vous. Et alors là, j'ai eu plusieurs sensations qui m'ont traversée. Il y a une espèce de surexcitation et en même temps énormément de tristesse parce que ça signifie que quelqu'un venait de mourir. Des morts de personnes qui donnent leurs organes, c'est souvent des morts très violentes ou bah, un énorme choc dans la tête, un accident de voiture. Enfin, c'est forcément que des morts cérébrales. Sinon, on ne prélève pas les organes. Moi, je me dis pas « j'attends la mort de quelqu'un » en fait. Je me dis « j'attends d'avoir une seconde chance pour vivre ». C'est le moment de se battre pour honorer le don qui vous est fait, quoi. Donc on n'est pas obligé de sauter de joie dans tous les sens, mais par contre, on est obligé de se battre, quoi. Il m'a dit, vous avez 10 minutes pour appeler vos proches, et ensuite, on vous lave et on y va. J'ai envoyé un texto à tous mes potes, je sais plus, j'ai mis, j'ai un cœur, à plus tard, bisous, quelque chose comme ça. Donc ma mère est arrivée, on a commencé à mettre de la musique et à chanter nos chansons favorites, et il y en a une qui s'appelle Total Eclipse of the Heart, qui était vraiment parfaite pour l'occasion, en se disant... Allez, let's go. Enfin, il n'y avait pas le choix, quoi. De toute façon, en fait, je crois aussi que j'étais très soulagée parce que j'en pouvais plus, en fait. Et puis, je suis rentrée au bloc et alors là, c'est allé très très vite et j'avais qu'une envie, c'était qu'on m'endorme. Parce que j'étais trop angoissée. Et puis, à ce moment-là, mon chirurgien est arrivé, mon merveilleux chirurgien, si humain, si incroyable. Enfin, vraiment un bonheur, cet homme. Je sais pas, un saint, quoi. Et donc, il est arrivé, il m'a regardé, il m'a dit, regarde Lorraine, regarde mes mains. Il me dit, tu vois, elle tremble pas. Et voilà, j'y croyais vachement. Je me disais, c'est pas possible de vivre tout ça et de crever maintenant, quoi. Je me disais, quel est l'intérêt ? Parce qu'en fait, le premier cœur, c'était vraiment un relais, en fait. S'il avait pas été là, je serais pas là. Donc, en fait, sans lui... En fait, je me disais, c'est pas possible, quoi. Oui, bien sûr, c'était très risqué. D'ailleurs, je suis restée 12 heures au bloc parce que je saignais trop, en fait. Enfin, y a rien à dire, quoi. J'ai eu énormément de chance.
Nous, ça nous a vachement aidé en fait, ce don d'organes aussi, pour la suite des opérations, toutes les démarches administratives, tout ce qu'il y a à faire après la mort. Et donc, on y pensait souvent, en fait, de dire que bah, là, il y avait le cœur qui était en train de battre chez quelqu'un d'autre, qui était encore un peu vivant, en fait. Enfin, et on en a parlé tout le temps, jusqu'au jour de l'incinération. Tous les trois enfants, on avait fait un texte. Et c'est un truc aussi qu'on avait dit à la fin, quoi, qu'il aimait tellement lui, il était tellement amoureux de la vie, des gens, etc., que de savoir que son cœur était en train de battre dans le corps d'un autre, c'était trop beau. Et pour nous, c'est, je pense, même une fierté, en fait, de savoir ça. bah, on savait qu'il était dans 5 vies, en fait. Enfin, en plus, son cœur, quoi. Moi, c'est ce qui me marque le plus. Toute ma vie, ce serait un truc de fou, quoi. En plus, je crois qu'on connaît l'âge du greffé, pour le coup. Alors, soit c'est un truc qu'on s'est raconté entre nous pour se faire du bien. La personne avait 15 ans, je crois. Il avait tellement peur de vieillir que de savoir qu'il est dans un corps de 15 ans, c'est un truc de dingue, quoi.
Cher donneur, je voudrais que tu saches que je vais très bien. Aujourd'hui, je travaille à plein temps, et puis j'ai rencontré il y a 3 ans l'homme de ma vie. Et nous rêvons d'essayer d'avoir un enfant un jour. Je dis toujours que tant que mon cœur bat et que je pisse, et que les gens que j'aime vont bien, alors tout va bien et que rien d'autre ne compte. Je vis vraiment cette phrase. Je trouve ma vie parfois tellement jolie, tellement excitante, tellement puissante que j'ai comme des impatiences dans les jambes. Alors il faut que je crie, que je danse ou que je tape des pieds pour me calmer. J'ai alors l'impression que tout est accessible et que je peux m'envoler.
Venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, 2 fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Partagez-nous vos histoires et vos témoignages en nous laissant un message vocal sur notre site internet postscriptum-podcast.fr.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.